enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Lorsque Wolfgang disait qu'il a dans son bureau un aigle, moi j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que toi t'as dans ton bureau ? Et moi, et tout d'un coup, ça m'est revenu. Moi, la seule chose que j'ai, c'est un hippopotame. Et je vais vous dire pourquoi j'ai un hippopotame. Parce que j'ai un de mes amis qui me fait toujours penser à lui. Et comme j'aime prier pour lui, en regardant mon hippopotame, il a les mêmes oreilles que mon ami. Alors, ce matin, si je suis maladroit comme un hippopotame, pardonnez-moi. Ceci dit, c'est la première fois en 20 ans de pastoral que nous prenons, mon très cher père et moi-même, la parole. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, nous ne voulions jamais la prendre, tout simplement parce que nous estimions que nous avions le privilège de vous accueillir et que d'autres étaient bien plus capables que nous pour vous faire passer le message de la part de Dieu. Cependant, plusieurs parmi vous, au cours des années qui ont passé, sont venus nous voir. Et nous ont dit, mais on a quelque chose de mal à comprendre. On vient dans une pastorale, on est dans une église où quand on arrive la première fois, on est surpris. Et on se demande, mais comment est-ce possible en France? Cependant, on ne vous entend jamais et vous ne parlez jamais en enseignant une seule fois. Ne serait-ce pas possible qu'on puisse une fois vous entendre? À partir de là, on a dit, bien, cette année, on va y aller une fois et après vous aurez la paix pour les 20 ans à venir. Donc profites-en, dis à ton voisin, ça va que durer une heure et après on est tranquille. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que j'ai un profond respect de vos ministères, en particulier des pionniers qui commencent des églises. Nous avons eu la grâce de commencer des églises, des œuvres un peu partout, que ce soit en Guyane, que ce soit également au Sénégal et ailleurs, en France. Et nous savons à quel point commencer une œuvre est difficile. Mais nous savons également à quel point Dieu est fidèle. C'est donc vraiment avec un profond respect de chacun d'entre vous que j'aimerais m'adresser à vous. Cependant, il est possible que j'aborde certains aspects dérangeants. Alors, je bénis Dieu parce qu'il m'a introduit par le message de mon frère Wolfgang sur les pensées. Je sais qu'à partir de maintenant, vos pensées ne seront que de bonnes pensées. Et quoi que je dise, le fruit de l'esprit se manifestera en vous et au travers de vous. Je suis simplement obligé de vous dire que malheureusement, je n'ai pas encore trouver ce matin les 7 clés pour une direction infaillible. C'est donc pas dans ce sens-là que je vais avancer, mais c'est plutôt sur le principe de base qui va engendrer en nous le moyen de bien diriger. Je crois qu'il y a un fondement et un principe de base, lorsque vous avez compris celui-là, de celui-là découlera votre manière de diriger, votre manière d'organiser. Il me semble essentiel. Ensuite, nous serons tous confrontés à une direction plus spécifique par rapport à l'endroit où nous sommes, l'église que nous avons, par rapport à la ville dans laquelle nous sommes. Nous avons tous été marqués les uns et les autres par notre expérience, par votre formation intellectuelle, votre formation professionnelle pour certains. Il y a différentes influences qui peuvent s'exercer. Tout à l'heure, le frère Wolfgang laissait sous-entendre que même l'épouse parfois pouvait être une source d'influence. Ça nous fait sourire, mais je vous assure que parfois certains rient jaune. Parce que dans certains endroits, on ne sait plus si c'est le pasteur qui dirige ou sa femme qui utilise le pasteur pour diriger. Vous allez me dire, ça y est, il commence. J'aimerais vous dire des choses qui peuvent, déranger, mais dans le seul but de nous faire avancer. Dans le seul but de nous faire avancer. J'aimerais tout d'abord, revenir sur le thème, le bénéfice d'une bonne direction. Je suis convaincu que vous êtes tous convaincus du bénéfice d'une bonne direction. Qui ne pourrait être convaincu du bénéfice d'une bonne direction ? Mon problème ce matin ne sera pas de vous convaincre qu'une bonne direction est bénéfique à votre église. Mon problème ce matin sera de vous aider, eh bien, à découvrir comment bien diriger. Je voudrais lire avec vous dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 28. Il nous est dit là, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. 1 Pierre 5, verset 2, faites paître le troupeau. Il n'est pas dit faites braire le troupeau. Qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. C'est surprenant de lire « ni pour un gain sordide ». Vous savez, parfois, lorsque je vois les réactions de certains pasteurs, je me demande si vraiment ils prennent soin du troupeau pour le troupeau ou s'ils prennent soin du troupeau à cause de leur salaire. C'est pas la même chose. Et dès qu'ils entendent que dans la même ville, quelqu'un pourrait ouvrir une autre église, ils sont inquiets parce que c'est le beefsteak qu'ils voient y partir. Est-ce du troupeau que nous prenons soin ou est-ce que nous utilisons le troupeau pour prendre soin de nous-mêmes? Une dernière lecture, 1 Pierre 5, verset 3. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, et c'est surtout ce que je ne voudrais pas faire ce matin, mais en devenant les modèles du troupeau. Une bonne direction de famille assure à la famille le bonheur. Un père à sa place, une mère à sa place, et une bonne direction va permettre l'épanouissement des enfants. D'ailleurs, remarquez que Paul va prendre cela comme critère pour choisir les évêques, ou les anciens si vous préférez. Il est dit, il faut, dans 1 Timothée 3, versets 4 et 5, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. L'apôtre Paul savait très bien que celui qui ne dirigerait pas bien sa propre maison n'est pas en mesure de diriger l'église du Seigneur. Et il me semble que parfois nous oublions cette donne. Elle est importante et elle est un des éléments. Parce qu'avant de parler de la direction de l'Église, j'aimerais juste pendant quelques instants, mais courtement, parler de celui qui est appelé par Dieu à diriger l'Église et nous ramener dans ce qu'il est dit dans le livre des Actes. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi. Ma question ce matin, est-ce le Saint-Esprit qui nous a établis? Parce que la genèse des problèmes commence souvent là, dans la direction. Est-ce le Saint-Esprit qui nous a établis? La question est de taille et cela demande beaucoup d'humilité et d'honnêteté pour y répondre. Elle peut être pour les uns enthousiasmante, pour les autres dérangeante. Je crois, et c'est une conviction qui ne m'engage que moi, qu'un homme établi par le Saint-Esprit peut diriger une église avec une bonne formation théologique ou sans formation théologique. Mais ce que je ne crois pas, c'est qu'un homme qui n'a pas été qualifié par le Saint-Esprit puisse diriger une église avec une formation théologique. Ce n'est pas la formation qui va vous rendre apte au service, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous qualifier. Et nous ne pouvons pas commencer à parler de direction d'église si nous n'avons pas commencé au préalable à réfléchir de quelle manière vont être établis les hommes de Dieu. Ce n'est en fait pas nous qui devons les établir, mais c'est le Saint-Esprit. Dans l'église primitive revenait cette parole, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il me semble aujourd'hui que cette phrase a très souvent disparu de nos églises. Lorsqu'un homme est établi sans que le Saint-Esprit l'ait établi, Cet homme va s'exposer à beaucoup de souffrances. Et si ce matin, cela peut paraître un peu brut de décoffrage, ce que je suis en train de vous dire, au fond, j'aimerais vous dire que c'est l'amour qui est en train de me remuer pour vous éviter de souffrir plus longtemps. Il vaut parfois mieux se remettre en question, voire s'arrêter, pour prendre du temps, est-ce que réellement Dieu m'a établi ? Il vaut parfois mieux se remettre devant Dieu et accepter ce que lui va nous dire, sachant que ce qu'il a à nous dire n'est pas forcément ce que nous avons envie d'entendre. Mes frères, je crois que c'est essentiel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que sinon, vous allez établir une direction que vous allez établir selon la chair. Lorsque le Saint-Esprit ne vous a pas qualifié, vous n'allez pas être capable de diriger par l'Esprit. J'aimerais que nous fassions attention à ne pas confondre la direction d'une association avec la direction d'une église. Nous sommes aujourd'hui en France, par le fait que l'État nous impose l'organisation d'églises sous forme d'association, pétrie par l'esprit de la démocratie. Alors, il me semble que ce n'est pas seulement vrai pour la France, mais mes amis suisses, qui passent de votation en votation, sont certainement également concernés. Aujourd'hui, au nom de la majorité, on renverse la volonté de Dieu. Aujourd'hui, l'on peut très bien s'organiser et diriger l'Église de manière à ce que, disait quelqu'un, si Dieu venait à mourir, l'Église ne s'en rendrait même pas compte. Je dis cela pour nous faire simplement réfléchir. Alors, je crois qu'il y a de la place pour le débat, même le débat contradictoire. Je crois également que la sagesse se trouve dans le grand nombre de conseillers. Mais il y a des moments où Dieu veut, lui, eh bien, donner la direction, et celle-ci, elle ne se discute pas. On s'y soumet et on l'exécute. Voyez-vous, Paul dira de lui-même qu'il est l'esclave de Jésus-Christ et non pas l'esclave de son conseil d'administration. Même si, dans notre situation, nous ne pouvons pas, eh bien, négliger l'un au profit de l'autre, je fais une différence entre la conduite de l'association et la conduite spirituelle de l'Église. Ce sont deux choses qu'il faut bien séparer, tout en sachant que nous sommes soumis aux lois de notre pays, soumis à nos autorités, et que nous avons donc également, eh bien, des charges à remplir. Si Moïse avait dû organiser un vote, avant de passer la mer des roseaux, il est fort probable que la décision aurait été tranchée par les Égyptiens. Vous me suivez ? Il y a des moments où le serviteur de Dieu est ce que je viens de dire, serviteur d'abord de Dieu. Et si je devenais, disait Paul, le serviteur des hommes, alors je serais le plus malheureux des hommes. Ceci dit, l'État a eu un bon souci lorsqu'elle a mis en place des lois sur les associations, simplement parce que on a voulu éviter d'avoir des gourous. On a voulu éviter d'avoir des dictateurs. Alors je crois que l'on peut assumer la direction de l'Église en tant qu'homme de Dieu dans l'Église sans être un gourou ni un dictateur. J'ai une grande grâce et je vous l'accorde. C'est d'avoir eu le droit, de travailler avec mon père depuis maintenant, en mai, ça fera 20 ans. 20 ans que je suis à plein temps avec toi. Et 20 ans que tu me fais confiance. Quelle est la question de base que nous devons nous poser pour, faire émerger un principe de direction. Vous savez, lorsque je réfléchissais sur le thème, la tentation était là chez moi de me dire, bien, je pourrais leur expliquer comment nous nous sommes organisés pour diriger, etc., comment l'Église est structurée, puisque quand je suis arrivé il y a bientôt 20 ans de cela, il n'y avait aucune structure juridique dans l'Église. Papa est un chasseur de lapins de Garenne d'abord. Et il ne s'est jamais embarrassé de toutes ces questions juridiques. Je suis donc arrivé à plein temps avec lui, mais je dois dire qu'au niveau juridique, c'est comme dans les premiers versets de la Genèse. Et puis j'ai dû apprendre. Je suis un autodidacte, j'ai dû apprendre. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été formés, que le Seigneur vous bénisse. L'essentiel, c'est que l'onction repose sur vous. Mais moi, j'ai été un de ceux qui a dû apprendre sur le tas. Vous savez, il y a deux sortes de personnes dans le monde. Il y a ceux qui poursuivent des études et ceux qui sont poursuivis par les études. Moi, j'étais malheureusement dans cette deuxième catégorie. Donc, j'ai souvent appris à mes propres détriments. La question de base, elle va vous sembler évidente. Et pourtant, c'est celle-là qui va déterminer le tout. Et vous le comprendrez avec moi. La question de base pour une bonne direction est, et c'est mon premier point, qui est le chef de l'Église? La première question, c'est qui est le chef de l'Église? Lorsque vous êtes dans une entreprise, à partir du moment où vous savez qu'il y a un chef au-dessus de vous, les décisions que vous prendrez ne seront pas les mêmes que celles que vous auriez prises s'il n'y avait personne au-dessus de vous. Vous n'allez pas réagir de la même manière. Cela va, eh bien, à quelque part, formater tout votre comportement et votre manière d'être avec les autres et votre manière de prendre les décisions. J'aimerais ce matin, si vous ne le saviez pas, vous rappeler que c'est pas vous le chef de l'Église. C'est pas moi le chef de l'Église, papa, c'est même pas toi. Le chef de l'Église, c'est Christ lui-même. L'Église n'appartient à aucune institution, elle n'appartient à aucun pasteur, elle n'a qu'un chef et c'est Jésus. Paul dit aux Éphésiens, Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. Ça compte même pour notre frère Benoît. Moi, j'ai rien dit, c'est vous qui dites 16. Moi, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait un Benoît dans la salle. Moi, ça vous engage que vous. Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église. Mes amis, nous avons là tous les éléments pour la direction. Je bâtirai mon église. Il est le constructeur de son église. Il est le chef de son église. Peut-être me direz-vous ce matin, eh bien nous avons fait 800 kilomètres pour entendre ça. Ça nous le savions. Mais en voyant fonctionner quelqu'un, c'est certain, je ne suis pas toujours sûr qu'il le savait. Ou parfois, il me semble qu'ils l'ont oublié entre deux. Voyez-vous, Saül était de cette trempe d'hommes. Au départ, très humble. Il dira, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Plus petit que moi, tu meurs. Voilà vraiment de l'humilité. Dieu va l'appeler alors qu'il se cachait là, au milieu des mules. Il sera oint, il devient roi. Mais au bout d'un moment, il oublie qu'il y a un autre roi à la tête d'Israël. Vous lisez avec moi dans 1 Samuel 13, versets 5 à 14. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Un peu plus loin, Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Un peu plus loin, Samuel dit, qu'as-tu fait ? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, a du mal à y croire à son histoire, hein, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de qui ? Du chef suprême. Que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Mon frère, ma sœur, la direction, elle vient d'en haut. Et nous sommes là pour exécuter ce que lui a ordonné. Nous ne sommes pas là pour commander et lui demander de bénir ce que nous avons organisé. Nous sommes là pour lui demander quelle est la direction afin de la suivre. Que votre église contienne 15, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000 membres, c'est toujours le même principe. Et c'est de celui-là que se dégagera, eh bien, toute votre manière de diriger et d'organiser. Saül va prendre une décision qui est dictée par la chair. Il va prendre une décision et une direction réactionnelle. Il me semble que souvent nous dirigeons l'église plus par réaction que par direction. Christ est le chef de l'église. Il est la pierre principale de l'angle. Mon frère, ma sœur, il faut que vous compreniez cela. J'ai appris à le comprendre au contact du papa Jean. Il a une théologie beaucoup plus élaborée que vous ne pouvez le soupçonner. Mais sa théologie, il ne l'a pas apprise là, il la vit journellement. Une bonne direction d'église repose sur la confiance et la foi en son chef. L'église n'est pas une entreprise, l'église est un corps qui a une tête, et sa tête c'est Jésus. Je suis profondément convaincu que les hommes de Dieu doivent d'abord être des hommes de foi. L'église se dirige par la foi. Il vous faut entendre Dieu. Mais pour l'entendre, il vous faut être sûr qu'il vous a qualifié pour cela. Il ne parle pas à des hommes qu'il n'a pas qualifiés. Il ne se sent pas obligé de vous bénir parce que vous vous êtes institué pasteur. Il se sent obligé de vous bénir et de vous suivre parce que lui vous a appelé. Et le fait qu'il a appelé l'un ou l'autre d'entre nous ne signifie pas que les choses seront faciles. Combien de fois il est dit dans le livre de Josué, « Prends courage !» Prends courage. Et j'aimerais vous dire ce matin, la mission qu'il nous a confiée nous demande beaucoup de courage. Prends courage et sois fort. J'aimerais vous donner, si vous le permettez, un extrait de mon témoignage. Je suis rentré à plein temps, j'avais 22 ans. Alors je sais plus si je suis rentré à plein temps ou en plein dedans. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, Seigneur, tu m'avais toujours parlé d'une barque et pas d'une galère. Et moi, j'ai l'impression de ramer comme un galérien. Les pressions qu'exerçaient les membres de l'église sur moi étaient terribles. Parce que j'écoutais tous les mécontents. Il n'y a pas assez de réunions de prière. On jeûne pas assez. S'il est mort, c'est parce qu'on n'a pas fait une chaîne de prière. Et en tant que jeune ministère, constamment, je retournais chez mon père. Il faudrait qu'on dirige l'église en ce sens-là. Plus de réunions de prière. Après, je revenais. Il faut qu'on jeûne plus. Mais s'il avait suivi mon programme, en tout cas au début, nous serions tous maigres comme des clous aujourd'hui. Mes premiers pas dans le ministère c'était de commencer à développer une direction par influence. C'est terrible, parce que vous devenez l'esclave. Et vous savez de quoi je me suis rendu compte ? J'organisais des réunions de prière et les râleurs n'étaient même pas là. Alors ça m'a tué, hein ? Et un jour, le papa Jean vient chez moi. Quand il le peut, il vient chez moi boire un café, on est voisins. Moi, j'étais déprimé. Ah, je me disais, moi, je retourne à l'usine. Hein. Là-bas, au moins, c'était cool. Tu savais qu'à 17h, t'as terminé, tu rentrais, t'avais plus de soucis. Là, le téléphone sonne jusque dans la nuit. Chaque fois, t'as l'impression d'être le responsable du malheur qui arrive. Le couple se tape dessus, c'est de ta faute. L'autre, il meurt, t'as pas assez jeûné. Le troisième, il râle parce que tu fais pas d'enseignement. Oh. Je voulais faire comme Wolfgang, mettre la couverture sur la tête et dire « Seigneur, reprends-moi ». Moi, j'ai même pas mis le temps que Moïse avait à demander la mort. Moi, tout de suite, je l'ai demandé. Et voilà qu'il arrive. Il s'assied à table. On boit un café et puis il voit ma mine un peu défaite. Il dit « Samuel, je voudrais te poser une question ». Je dis « Vas-y ». Il dit, c'est toi qui guéris les malades? Je dis, ben non, je sais bien. Ah. Il dit, mais c'est toi qui sauve les gens, hein? Je dis, mais non. Commencez sérieusement à me courir sur le haricot, hein? Ah, il me dit, mais c'est toi qui vas emmener le réveil. J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il me dit, mais si c'est pas toi qui fais tout ça, pourquoi est-ce que tu réagis comme si c'était toi qui allais le faire? Laisse faire Jésus. Sois tranquille. Comme moi. Et là, vous avez littéralement envie de manger la boîte de somnifères pour tout oublier. Moi, j'étais en train de mourir de soucis. Cool, Raoul. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça dépend pas de toi, ça dépend de lui. S'il veut que le malade vive, il va vivre. Toi, prie en lui faisant confiance et le reste ne t'appartient pas. S'il nous choisit pour faire une église de 500 membres, nous aurons 500 membres, réjouissons-nous. Un jour, il m'explique, il était chez le frère Yonggi Cho à Séoul en 1977. Ça remonte, c'est du siècle dernier. Bah, riez pas, vous êtes tous du dernier siècle, hein. Et puis, la question fut posée, ayez une vision pour l'église. Bien. Et chacun devait mettre combien de membres il voudrait dans l'église. Alors les gens ont mis 10 000. Tant qu'à faire, hein. Et puis un pasteur qui l'avait accompagné, qui n'avait pas d'église, 5 000, c'est sympathique comme ça finalement. Et alors il m'expliquait. Et au bout d'un moment, je me suis arrêté. Je dis, et toi Peter Schmidt Jean, qu'est-ce que t'as écrit sur ta feuille? Et oh là, oh oh. Et moi, j'ai écrit, Seigneur, envoie-moi-en autant que je peux en supporter. Mais là, le service devient tranquille. Là, tu comprends qu'il a le temps de chasser les lapins et faire un tas de choses en même temps. Mais je vous assure que j'ai appris comme ça. Je crois à la formation de ministère à côté de ministère. Si vous avez la foi que Dieu dirige, vous vous éviterez beaucoup d'erreurs. Deuxième point. Vous me donnez encore un peu de temps? toute façon, je l'aurais pris. Et c'est ça, diriger démocratiquement. On demande et après on fait ce qu'on pense. En réalité, est-ce que c'est autrement en réalité? Bien. C'est toi qui m'avais enseigné ça. Hein, conséquence de la foi en Christ, le chef. Tout d'abord sur l'esprit d'équipe. Lorsque vous avez compris que Christ est le chef de l'Église, vous allez alors comprendre également que vous ne pouvez pas être le chef de tout. Vous allez comprendre que vous-même, vous êtes limité. Et quand vous avez compris que, de toute manière, le chef c'est Christ, vous commencez à accepter vos propres limites, ce qui vous permet d'envisager la collaboration avec d'autres. Connaître votre ministère et ses limites est essentiel pour travailler avec les autres. Si vous pensez être complet en tout, vous ne pourrez jamais collaborer avec quiconque. Bien sûr que les églises naissantes ont des pasteurs qui, malgré eux, souvent doivent tout faire. Ils prêchent, règlent la sono en même temps, jouent le piano encore si possible, parce que la situation le veut. Mais vous n'êtes pas appelé à rester ce que vous êtes. Vous êtes appelé dans la grâce à grandir. Jean le Baptiste, écoutez bien, connaissez ses limites. Si vous ne connaissez pas vos limites, vous allez vouloir tout faire. Mais cela vous condamne à l'épuisement et à la faim. Et au bout du compte, vous n'aurez rien fait. Il est dit dans Jean 3, 27-28, « Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Jean, le Baptiste, savait exactement quel était son rôle et son ministère. Il savait où ça commençait et où ça s'arrêtait. Et je crois que nous devons découvrir quelles sont nos limites pour pouvoir ouvrir la direction également à des collaborateurs. Que s'est-il passé dans Jean 1, 35? Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu !» Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Frère, moi je me suis souvent arrêté sur ce texte. Et je me suis dit, mais comment aurais-tu réagi? Quelle attitude aurais-tu eue? Quels auraient été les sentiments dans ton cœur à l'égard des deux qui partent? Frustration. Jalousie à l'égard de celui qu'ils suivent? Sentiment d'abandon et de trahison? Ou simplement comme Jean, conscient que mes limites sont là et d'autres continuent. Pourquoi est-ce que comprendre nos limites est important? Tout simplement parce que si vous comprenez vos limites, vous dirigerez avec respect et avec le souci de les voir réussir ceux qui travaillent avec vous. Je dis bien avec respect, parce que vous reconnaissez en eux la part que Dieu leur a donnée pour accomplir la vision dans laquelle ensemble nous sommes engagés. Avec respect, parce que vous désirez qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Vous ne serez pas effrayés par leurs compétences, leurs capacités. Vous ne vous sentirez pas en concurrence avec eux. C'est fou le nombre d'églises où dès que quelqu'un se lève, le pasteur déprime. Jésus a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Priez le père afin qu'il envoie des ouvriers. Qui est d'accord avec ça? Mais je sais que vous êtes tous d'accord. Mais je vais vous dire ce qui se passe en réalité. Nous prions, oh Seigneur, oh Père, Père dans le ciel, lève un ministère au milieu de nous. Lève des serviteurs. Et dès qu'ils se lèvent, on s'applique à les tuer avant même qu'ils aient le temps de vivre. Ou alors, ils doivent devenir notre copie conforme. C'est pas les Raéliens qui ont inventé le clonage. Les pasteurs ont inventé le clonage bien avant. Bien avant. Vous ne les choisirez pas en veillant à ce qu'ils soient surtout accommodants et dociles pour mettre en œuvre le moindre de vos désirs. Vous aiderez à mener à bien leur mission, sans les interrompre constamment dans leur élan parce qu'ils ne font pas comme vous l'avez pensé. En un mot, vous apprendrez à leur faire confiance comme Dieu doit vous faire confiance à vous. Notre force, entre autres ici, nous l'avons tirée du fait que le papa Jean nous a fait confiance. Hier, le frère Wolfgang disait, lui c'est le conservateur, vous êtes les modernes, mais il a osé croire en vous. Moi j'aimerais dire autre chose, il n'est pas le conservateur, il était le visionnaire qui voyait en nous la prolongation de la vision. C'est différent. C'est différent. Trop souvent, nos choix se dictent sur la base de nos craintes. Nous voulons diriger l'Église, nous voulons une équipe. Mais bien des pasteurs ont limité la croissance même de leur église parce qu'ils ont limité leur équipe à leur propre capacité. Je suis aujourd'hui entouré d'une équipe de laquelle je peux être fier devant le Seigneur et pour sa gloire, parce qu'ils sont meilleurs que moi dans bien des domaines. Quand je vois la capacité que Claude a de fédérer les frères pour le réseau radio, je peux que louer le Seigneur et me dire ta mission, c'est de l'aider à réussir. Et j'aimerais à tous ceux qui veulent s'engager dans cette vision-là, vous dire, vous avez là un homme à votre disposition, avec lequel je travaille depuis 15 ans, qui est un homme fidèle et qui ne vous fera pas faux bond, mais il vous aidera. Lorsque je travaille avec mon frère Bertrand, qui travaille maintenant au milieu des enfants, dans l'église, il y a quand même environ 500 enfants dans les écoles du dimanche. C'est une responsabilité. Mais qui travaille également dans les quartiers. Je suis en admiration. Et je dis, Seigneur, je ne suis pas capable de faire un quart de ce qu'il fait. Quand je vois Christian qui développe l'œuvre missionnaire et humanitaire, j'ai la même réaction. Et je me dis, Seigneur, c'est fantastique. Parce que ces frères ont permis à l'Église d'aller beaucoup plus loin que moi je n'aurais pu le faire, que le papa Jean aurait pu le faire. Ensemble, nous allons plus loin. Est-ce que cela signifie qu'être à la tête de l'Église, c'est être capable de tout? Justement pas. Le fait d'être à la tête d'une Église ne veut pas dire que vous êtes le meilleur, loin de là. Parfois, vous êtes même moins bon que les autres. Mais si vous reconnaissez que vous êtes moins bon, vous saurez chercher les hommes qui sont meilleurs que vous. Vous saurez reconnaître là où l'esprit s'est posé. Et alors, vous vous enrichirez de leur présence. Deuxième chose, déléguer ne veut pas dire ne plus diriger, mais partager la vision. Dans un corps, il n'y a pas 36 têtes, sinon c'est un monstre. La tête de l'Église, c'est Christ. Dans l'Église locale, je crois aussi que Dieu établit des bergers avec lesquels d'autres vont travailler. Quelqu'un doit donner l'impulsion. Mais celui-ci même doit également... Eh bien, veillez à ce que ces collaborateurs puissent entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour eux. J'aimerais vous le rappeler, vos collaborateurs ne sont pas vos serviteurs d'abord, ils sont les serviteurs de Christ. Deuxièmement, nous parlons souvent en tant que pasteur du plan de Dieu pour ma vie, n'est-ce pas? Souvent, je voyage quand même passablement, je vois passablement d'église. Souvent, j'entends, ah frère, le plan de Dieu pour ma vie. C'est très bien, serviteur de Dieu. Mais as-tu considéré que Dieu a aussi un plan pour la vie de tes collaborateurs? Est-ce que tes collaborateurs ne sont que là pour te permettre de réaliser ton plan pour ta vie à toi? Ou est-ce qu'au contraire, il voit en toi un homme qui se réjouit de les aider à réaliser le plan de Dieu dans leur vie également? Je vais vous dire pourquoi il y a parfois des tensions, même des explosions dans les églises. Tout simplement parce que, à un moment donné, les gens se sentent plus utilisés qu'encouragés. Si je peux me permettre quelque chose et un conseil, plus vous manifesterez à vos collaborateurs de la confiance, et vous pourrez avoir de la confiance parce que Dieu est là, le chef au-dessus de vous, c'est lui. J'ai eu des gens qui ont trahi ma confiance. J'en ai eu. J'en ai eu qui ont trahi notre confiance, qui ont quitté l'église pour recréer quelque chose. Ça s'est effondré. Ça s'est effondré tout simplement parce que c'est lui qui qualifie. C'est pas celui qui s'autoproclame, c'est lui qui qualifie. Donc je suis dans la paix. Et je me dis quand même quelqu'un trahirait ma confiance. C'est à son propre détriment. Cependant, l'amour croyant tout, je veux faire confiance à mes frères. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas dû apprendre à fonctionner ensemble? Bien sûr, j'ai dû apprendre à fonctionner avec Claude. On a des caractères différents, hein Claude? Bertrand, un caractère différent, j'ai un caractère différent. Nous avons dû apprendre à affiner les choses. Cependant, quand vous manifestez la confiance, ils sentiront que vous cherchez leur bonheur. Leur réussite dans le plan de Dieu. Pour leur vie, à ce moment-là, ils vous honoreront et vous soutiendront. S'ils ont l'impression d'être réduits au simple esclave, rien ne se passera. Vous appauvrirez votre église. Vous ne pourrez pas la diriger où Dieu vous dit d'aller. Tout simplement parce que ceux qui travaillent avec vous, eh bien, n'ont plus la force de vous suivre. Troisième point. Vous me laissez encore un peu de temps? Ils me répondent même plus, ça fait comment je fonctionne. Conséquence de la foi en Christ le chef sur la direction des projets. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas venir avec les 7 clés pour le succès. Ou les 7 clés pour une bonne direction. Parce que, en réalité, je ne crois pas que ça existe. Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas que ça existe. Parce que je crois que Dieu a un plan pour chaque église. Et je crois que Dieu a des directions différentes les uns des autres. Bien sûr, il y a des principes de base qu'on va retrouver partout. Bien sûr, il y a une ligne médiane qu'on va retrouver partout. Cependant, il y a également le caractère propre de l'église locale. Dans ce troisième point, si Christ est le chef, nous allons également avoir du repos quant au projet qu'il a pour l'Église. Nous ne chercherons pas à faire autre chose que ce qu'il permet et nous ne le ferons pas avant qu'il ouvre les portes. Hello ? Ce que je vous dis là est extrêmement important. Vous pouvez protéger votre Église d'un crash. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de ressentir une forme de frénésie pour la croissance de l'Église. Je vais m'expliquer. Des chiffres, des méthodes, des conférences sur un bon leadership, autant de sujets abordés pour que votre Église croisse. Le résultat, c'est qu'on dirige souvent l'Église. Et structure cette dernière sur la vague de la dernière mode de passage ou du dernier prophète qui a parlé. On adapte le message de l'évangile et l'organisation même de l'église, non plus à la parole, mais au dernier truc nouveau qui vient de nous arriver de je ne sais pas quel coin de la terre. Et ensuite, quelques mois plus tard, vous avez des pleurs, des pasteurs dépressifs parce que l'église s'est divisée, s'est brisée. Pourquoi? Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ton but à toi ne doit pas être une grande église, ni une petite église. Ton but à toi, c'est de dire, me voici pour te servir. Parfois, La préoccupation de croissance est telle que je me demande encore si l'évangile est au centre. Est-ce que l'objectif n'est plus que de rajouter des personnes à des personnes et à d'autres personnes? Je crois pas. Je crois que l'objectif est d'abord de former des disciples. Nous avons le droit à aspirer à une église qui grandit. Mais on a oublié quelque chose d'essentiel. Encore une fois, le chef, c'est qui? C'est pas parce que tu vas instaurer une nouvelle méthode. C'est pas parce que combien, lorsque le frère Yonggi Cho avait lancé les cellules, ont mis des cellules en place. Dites-moi quelles églises ont grandi en France au travers de ça. Ce que nous avons oublié, c'est que le frère Yonggi Cho avait reçu une direction de la part de Dieu pour cela. Et ensuite, nous avons cru que ça marchait comme avec les photocopieuses. Dieu a un plan pour toi, pour ta vie et pour ton église. L'objectif ici n'avait jamais été une grande église. L'objectif avait toujours été de suivre ce que Dieu nous dit. Si Dieu avait dit 10 églises de 200 membres, on aurait fait 10 églises de 200 membres. Mais Dieu a donné une vision où il voyait un grand peuple. Le fait d'obéir à ce que Dieu te dit ne te garantit pas de remous dans l'église. Et c'est souvent quand il parle que des remous arrivent. Qui voudrait que Dieu dise du bien de lui? Levez-vous la main. Levez-vous la main, moi je... Ah, il y en a qui s'intéressent même pas à ce que Dieu dise du bien de lui, mais... Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Qui se réjouirait? Jacques. Jacques. C'est mon ami, Jacques. Tu aimerais que Dieu dise du bien de toi? Alors prépare-toi à vivre Job. On veut que Dieu dise du bien de nous. Sommes-nous prêts à assumer ensuite? Je disais tout à l'heure que nous avons oublié une pièce maîtresse essentielle. La croissance de l'Église, elle vient par le Saint-Esprit. Vous croyez que dans le ciel, Dieu est préoccupé par savoir combien de membres vous avez? Vous croyez que la joie dans le ciel, c'est de dire... Eh ben, c'est merveilleux. À la paix aussi, ils sont temps et temps. C'est pas ça, la préoccupation dans le ciel. La préoccupation dans le ciel, c'est de savoir, est-il capable de m'obéir? Quand il est parlé d'Abraham, de Moïse, dans le livre des Hébreux, il est dit, et Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement obéi. C'était tout. Dieu s'est pas réjoui de Moïse parce qu'il avait des millions de personnes derrière lui. Il s'est réjoui, il était fier d'être son Dieu, fier d'être le Dieu d'Abraham parce qu'il obéissait. L'Église, dit le livre des Actes, était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait grâce à la méthode nouvelle. Et enthousiasmante des cellules nouvellement nées, idée de Jacques. Bon, je change. Et elle s'accroissait par l'assistance du G12. Moi, j'ai rien contre le G12. Il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Certaines idées que j'ai retenues, que j'ai appliquées. Mais nous avons dit, Seigneur, quelle est ta volonté pour ici? Un Alsacien n'est pas un Sud-Américain. Il mange pas la même chose. C'est de la choucroute. Nous avons oublié cela. Nous avons confondu. Écoutez, tout ce que j'ai là, c'est ce que j'avais sur mon cœur. Vous savez, au début, quand vous voulez parler d'un tel sujet, vous dites, tiens, quel bouquin je pourrais consulter, vite. Puis j'ai voulu le faire. Le Seigneur m'a dit, tu feras pas ça, tu feras ce que je te dis. C'est pour ça, si vous avez un hippopotame ce matin dans le magasin de porcelaine, pardonnez-lui. Mais je me sens en charge également de communiquer ces choses. Nous avons trop souvent confondu structurer l'Église pour la croissance avec accompagner la croissance par la structure. La structure n'a jamais fait grandir aucune église. La croissance par le Saint-Esprit amène alors la structure à l'accompagner. C'est tout à fait différent. Je vais vous poser une question. Qui a eu des enfants ici? Soyez bénis, hein, vous avez obéi à ce texte qui dit « Multipliez-vous et soyez féconds ». Réfléchissez bien. Est-ce que parce que vous mettez à votre petit de 1 an un pantalon de, pour un garçon de 20 ans, il grandit plus vite? Non, ça nous fait même rire, hein? Hein? Non, au contraire, je vais vous dire ce qui va se passer. Non seulement il grandit pas plus vite, mais il va se prendre les pieds dans votre pantalon qui est trop grand. Est-ce que mes chères sœurs, lorsque votre fils avait 20 ans, vous lui mettiez encore une grenouillère? J'aimerais vous dire qu'il y a des principes dans le monde spirituel qui sont les mêmes que dans le monde physique. On adapte la structure à la croissance et pas l'inverse. J'en ai eu 6 des gamins, je sais quand même comment ça fonctionne. C'est pas parce que je les mettais dans des grands pantalons qu'ils ont grandi. Mais c'est parce que nous les nourrissions régulièrement qu'ils ont grandi. Je suis parfois surpris d'arriver dans des églises. Il y a 30 membres et il y a 15 responsables. Mais c'est prodigieux quand même, hein? Mais ils ont une structure pour une église de 300, 400 membres. Si vous avez 100 membres, vous n'allez pas construire une église pour 1000 places. À moins que Dieu vous l'ait demandé. Mais si Dieu vous l'a demandé, nous le vérifierons. Nous le vérifierons. Parce que ce qu'il dit s'accomplit. Nous voyons des églises parfois dans la détresse. Parce qu'elles disent avoir fait un acte de foi. Mais j'aimerais te dire que l'acte de foi, tu peux que le faire si Dieu t'en donne l'ordre. Hello ? L'acte de foi, c'est pas un acte que tu fais en espérant que lui te suive. Je le dis souvent quand je prêche dans des églises, quand Pierre est sorti de l'eau, il a marché sur quoi? Il a marché physiquement, il a marché sur l'eau. Vous et moi, nous savons que l'eau ne porte pas. J'avais entendu un jour un scientifique qui faisait un développement et disait, il a pris un élan dans la barque et c'est l'élan qui lui a permis de faire 2-3 pas sur l'eau. Et vous savez, quand c'est comme ça, moi je m'arrête pas là, moi je vais essayer. Et je suis allé à la piscine pour essayer. Je vous dis pas une blague, hein. Je vous ai toujours dit que les études me poursuivaient, alors bon. Je vais à la piscine, je me mets bien sûr en maillot de bain. Et je me mets assez loin du bassin. Et je me dis, ben, ou le type a raison, ou il a tort. Et j'ai pris un élan. J'ai pris un élan, mais aussi vite que je le pouvais. Et j'ai marché. Au fond. Je suis sorti de mon étude scientifique conclusion. Un homme ne marche pas sur l'eau. Donc il a marché sur autre chose, Pierre. Pierre a marché sur la parole de Jésus. Viens, un pied sur le V, un pied sur le I, le E, le N et le S. Un jour, je me suis trompé, j'ai dit le T. Tout le monde a dit, oh, quelle faute d'orthographe. Et je leur ai expliqué, c'est pour ça qu'il a sombré à ce moment-là. Comptez toujours sur le Saint-Esprit pour vous aider à rattraper votre faiblesse. Ça n'a jamais été mon fort, l'orthographe. Ne confondez pas structure et croissance. C'est important. Mais adaptez la structure à la croissance, parce qu'une croissance sans structure peut être aussi la fin de la croissance. Nous avons oublié que trop souvent, eh bien, la bénédiction dépend, elle, de l'obéissance. Et j'aimerais maintenant arriver à mon 4e et dernier point. Ma question aujourd'hui, c'est, mais le chef de l'église peut-il encore lui dire quelque chose? Les églises locales sont-elles encore en mesure d'écouter, Dans certaines, il parle tellement que personne ne s'en sort. Parce qu'alors, toutes les deuxièmes paroles sont prophétiques. Dans d'autres, par prétexte d'excès, il parle plus. Dieu peut-il encore parler aujourd'hui? Je crois qu'il y a un élément de base, c'est sa parole. Nous l'avons entendu. C'est une épée. Ta parole est une lampe à mes pieds et pour la direction, vous avez besoin de cette lampe. Une lumière sur mon sentier. Permettez-moi une réflexion. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que la parole est souvent reléguée au second plan dans la direction de l'Église par, je le disais tout à l'heure, le dernier livre en vogue, traitant par exemple du leadership. On cherchera à attirer le client. Un jour, je suis arrivé dans une église, on offrait même du chocolat à l'entrée. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont venus pour le chocolat, j'espère qu'ils avaient une autre raison de venir. Alors qu'on soit gentil avec les gens et qu'on soit accueillant, ce n'est pas forcément une vertu de faire un visage de pitbull quand ils arrivent. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Cependant, la parole de Dieu a trop souvent été reléguée à la seconde place. Aujourd'hui, on n'est plus christocentrique. Permettez-moi un nouveau terme, on devient homocentrique. Tout est basé sur les gens. Pourquoi? Parce qu'il faut leur faire plaisir pour qu'ils reviennent. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, je suis là pour obéir à Dieu. Est-ce que tout le monde a suivi toujours Jésus? Certains l'ont quitté. Il faut accepter les règles du jeu. Mes amis, nous n'avons plus le courage d'être vrais. Nous ne prêchons plus la repentance. Nous ne dénonçons plus le péché. Et ce n'est pas en contradiction avec ce qui a été dit tout à l'heure. Parce que là aussi, nous ne sommes pas appelés à être les moralisateurs. Mais cependant, nous sommes appelés à annoncer toute la vérité. Et pas simplement une partie de la vérité. Lorsque la direction de l'Église est plus inspirée par les derniers livre à la mode sur le leadership ou autre chose, je me posais une question, et je vous la pose aujourd'hui. Évidemment, je sais ce qu'est un leader, c'est un chef, un conducteur d'hommes, le leadership, c'est tout simplement avoir de l'influence. Mais j'aimerais pas tant me préoccuper de cela, j'ai un problème de vocable, moi, j'ai un problème de vocabulaire. Et je vois formation de leader et ceci, et mes frères, je vous accuse pas, moi aussi. Mais j'ai un problème avec ce terme-là, et je vais vous dire pourquoi j'ai un problème. Ma crainte, tout en sachant ce qu'est un leader, c'est qu'on perde l'essence même de la fonction du pasteur, qui est d'être celle d'un berger. Ça veut pas dire la même chose. Faites attention, ça ne veut pas dire la même chose. Si vous devenez le leader de votre église, vos objectifs vont passer avant vos brebis. Le leader est celui qui saura mettre tout en œuvre pour atteindre son objectif. Parfois, il fait du management, ce qui est encore une fois autre chose. Et aujourd'hui, on instruit des pasteurs sur la conduite de l'Église, à la base, vous avez des livres qui traitent du leadership dans les entreprises. Et on transpose le leadership d'entreprise dans la conduite de l'Église. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes plus dans les mêmes domaines. Lorsque la Bible parle de berger, c'est parce que Dieu veut dire ce qu'il veut dire en parlant de berger. Et le mot même du berger définit sa fonction. Et le mot même du berger définit la manière dont il va diriger, la manière dont il va collaborer. Dans certaines entreprises, le leadership va amener le leader à se séparer de toute une partie de ses employés parce qu'il faut s'en débarrasser afin d'atteindre l'objectif. Mais j'ai parfois peur que certains sont tellement devenus leaders qu'ils n'ont plus le souci de la centième brebis. C'est plus que l'objectif, c'est la croissance. Mais la motivation est fausse. Moi, je souhaite la croissance lorsqu'elle est le résultat de la repentance des pécheurs qui viennent à la foi. Encore hier, je parlais avec un serviteur de Dieu, une église qui, apprenaient que leur église était en difficulté, le secrétariat de cette église-là a appelé les membres pour dire « Bah si ça va mal chez vous, venez chez nous ». Vous appelez ça de la croissance ? Un jour, il faudra rendre compte aux bergers des bergers. Quand en finalité, ceux qui m'entourent ne sont que là pour me permettre d'atteindre mon objectif, l'Église est en danger. L'Église est en danger. Le chef de l'Église, revenons à lui, je vous avais dit, je vous donnerai ce qui sera le principe de base et qui restera de base pour définir toutes vos directions et votre manière de diriger. Le chef de l'Église se présente à nous non pas comme le grand leader, qu'on emploie ce terme aux États-Unis, ok, mais il se présente comme le bon berger. Il ne nous dit pas « Regarde comment a fait Ford ou Peugeot pour réussir ». Il dit « Consulte ma parole, rumine-la », a dit le frère, « Observe-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit ». C'est pour ça que je vous disais, Dieu parle par sa parole, mais on l'écoute plus. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on veut atteindre rapidement nos objectifs à nous et c'est la chair qui nous motive. Et parfois même notre vision de croissance de l'Église n'a rien à voir avec Dieu, mais avec notre chair, avec notre gloire, avec notre orgueil. Le chef se présente comme le berger. Luc 6, 40, il dit, avant d'être pasteur, vous êtes des disciples et je suis un disciple. Il dit, le disciple n'est quoi ? N'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si je suis accompli comme mon maître, que se passe-t-il ? Je deviens un berger, comme mon maître. 1 Pierre 5, 2, nous l'avons lu, faites paître le troupeau. Quand vous êtes trop leader, vous le faites braire le troupeau. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés. Il y a trop de pasteurs, patrons et leaders. Leur manière de diriger l'Église, ce n'est plus une famille qu'ils dirigent, ce n'est plus des brebis, mais c'est simplement une entreprise. Je reviens là-dessus. Même s'il y a de bonnes leçons à tirer de ce qu'on peut voir autour de nous et des questions parfois à nous poser, le monde parfois est plus sage que l'Église, c'est vrai. Eh bien, le principe de base dans la direction restera toujours Dieu et Dieu lui-même. Sa parole et sa parole seule. Que s'est-il passé ici ? Et j'arrive vers ma conclusion. Nous avons été amené à structurer l'Église en fonction de sa croissance et des brebis. Le premier souci a toujours été le soin des brebis. Pendant tout un temps, nous étions seuls en tant que pasteurs. Moi, je suis Papa Jean. En 1984, a vécu une épreuve dans l'Église, 83-84, puisque nous étions passés d'un dimanche à l'autre. D'un dimanche à l'autre. De 250 personnes à environ 30, 40, dans les meilleurs cas 50 personnes. Imaginez que votre église se réduise d'autant dimanche prochain, je ne vous le souhaite pas. Ça a été un moment difficile, simplement parce qu'il avait cru à ce que Dieu lui avait dit. Et il y a des moments où tu dois croire contre vents et marées. C'est ça la foi. C'est pourquoi la direction de l'église demande la foi. Et puis, par la grâce de Dieu, ce que Dieu lui a dit a commencé à se réaliser. Au début, la salle était remplie de chaises, mais vide. Et nous étions là, nos harpes étaient suspendues et nous pleurions, découragés. Fallait plus me dire, va dans la rue évangéliser. Dis alors, tu les cherches. Et après, ils te mettent un coup de pied dans le muscle. Un jour, il dit, mais les enfants, venez, on va sortir des chaises de l'église, on va écarter les rangs, ça fera moins vide. C'est psychologique, hein. Et ma mère qui se mêle jamais, je dois le dire, ma mère se mêle jamais dedans. Ce jour-là, elle le prend. Elle lui dit, Jean, t'as eu une vision, oui ou non? Bon, quand elle parle comme ça, moi je sais quel effet ça fait. Hein. Ouloulou. Parce qu'elle a une base de kinésithérapeute, elle me massait souvent. Souvent. C'était un peu primaire, les massages, mais efficace quand même. Et lui dit oui. Et là, elle lui dit, si tu as vraiment une vision de Dieu, si cette vision tu y crois, alors tu toucheras pas une seule chaise, parce que Dieu va remplir les chaises. Pourtant, c'est pas dans son caractère, hein. On a laissé les chaises. 2 ans et demi, 3 ans après, on était aux alentours de 250-300. Et c'est l'époque où je suis arrivé à plein temps. Parce qu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus prendre soin seul du troupeau. Et puis on est resté ensemble jusqu'à ce qu'on était, je sais pas, 600, 700 personnes, 800. Je sais plus, Claude, quand t'es arrivé. C'était fin d'IMC? Non? Ici, hein? Ici. On devait être 700, 800 personnes. Et là, j'ai senti le besoin de voir quelqu'un nous rejoindre. Claude est venu nous rejoindre. Puis Christian. Puis, eh bien, Bertrand. Puis dernièrement, nous avons notre frère Jean-Marie qui nous a rejoint. Et puis, nous nous étions rendus compte, d'abord on avait des réunions de prière. Et petit à petit, l'église a commencé à se structurer. Et plusieurs fois, nous avons dû évoluer. Sachez une chose, vous vous occupez d'un corps vivant. L'église n'est pas quelque chose de figé. C'est toujours en mouvement. Et puis, ont été mises en place des cellules propres à ici. Et par la grâce de Dieu maintenant, il y a environ 1 000 000 de personnes dans les cellules. Et moi, en tant que berger, j'ai une grande paix. Parce que je sais qu'en tout cas, ces brebis-là, elles sont bien soignées. Mon frère, ma sœur, ne confond pas structure et croissance, leader et berger. Tu es d'abord et uniquement un berger. Ma conclusion, si vous le voulez bien, fermons nos yeux et je vous le dirai comme cela. Pendant que, tiens, mon frère, Jouté, tu pourrais te mettre au clavier, s'il te plaît. Je sais que je vous ai dit beaucoup de choses. En peu de temps, il faut peut-être prendre du temps pour y réfléchir. Certains peut-être diront, mais nous, on n'est absolument pas d'accord avec toi et vous avez le droit de ne pas l'être. Mais on m'avait demandé de partager sur ce que nous avons vécu ici. Mon mot de conclusion, c'est que je sais que nous vivons une grâce depuis 20 ans dans ce lieu. Toute la gloire, je veux la rendre au Seigneur. Mais j'ai appris au travers et avec le serviteur de Dieu que Dieu avait appelé à fonder cette église, que la foi est indissociable du pastorat, qu'écouter est indissociable de la direction, et que le chef, c'est Jésus lui-même. Comme Josué, mes frères, mes sœurs, vous réussirez dans ce que vous entreprendrez simplement parce que vous aurez entrepris et votre manière de diriger sera en accord avec le chef de l'Église, Christ. Le Saint-Esprit qui a conduit l'Église des premiers temps est toujours encore le même. Qu'on ne parle pas seulement de décision au pourcentage des votants, sans négliger cet aspect-là des choses, revenons à la parole. Et pour ce qui est de la croissance, alors que vos yeux sont fermés, laissez-moi vous dire un mot que j'ai sur mon cœur. N'oubliez jamais, jamais, qu'un troupeau en bonne santé, bien nourri, et tout berger sait qu'un troupeau bien nourri, c'est pas un troupeau qui broute comme il veut et où il veut. C'est un troupeau dont le berger choisit la nourriture. Eh bien, un troupeau comme celui-là engendre toujours des naissances et se multiplie. Voulez-vous une croissance dans votre église? Soyez de bons bergers, nourrissez-les bien. Et je termine. Ne vous reposez jamais sur vous-même, sur les succès passés, ou sur simplement le succès de quelqu'un d'autre. Ne vous reposez pas sur la structure pour diriger l'Église. Ne vous sentez jamais fort par vous-même. Vous avez eu besoin de lui, le chef, dans les petits commencements. Comme nous ici, nous avons eu besoin du chef dans les petits commencements. Quel que soit un jour la taille auquel Dieu vous aura permis d'arriver, en sachant que ce n'est pas ça le but, mais de le servir d'abord en lui obéissant, vous vous souviendrez alors ce jour-là, comme nous nous en souvenons régulièrement lorsque nous nous réunissons, comme nous avons eu besoin de la grâce de Dieu il y a des années de cela, alors que papa se retrouvait dans une situation difficile, alors qu'il réunissait des gens dans sa salle à manger, comme nous avons eu besoin de sa grâce 13 ans plus tard, alors que l'Église passait par une crise profonde à cause de la vision de Dieu. Nous avons aujourd'hui, alors que nous sommes l'Église par la grâce de Dieu qu'il a voulu que nous soyons, nous avons toujours autant besoin de lui. Il est au centre. Père, que ta grâce s'étende maintenant. Qu'une bonne direction d'Église se définisse plus d'après notre stratégie. Tu as inspiré la stratégie à Josué pour Jéricho. Tu as inspiré la stratégie pour sortir ton peuple d'Égypte. Tu as inspiré aux apôtres la stratégie pour nommer des diacres. Tu as inspiré Paul pour nous aider à choisir des évêques, des anciens. Tu n'as pas oublié l'Église du 21e siècle. Tu es présent ce matin. Inspire mes frères et mes sœurs. Que des serviteurs de Dieu se lèvent dans ce pays, choisis par le Saint-Esprit. Qu'ils puissent ensuite être formés, que Dieu soit glorifié. Mais qu'à la base, d'abord, le Saint-Esprit les ait choisis. C'est l'avenir de notre pays qui en dépend. Père, tu vois ceux au milieu de nous qui peut-être ce matin ont été remises en question. J'aimerais te demander de les encourager. La remise en question n'est pas là pour nous abattre, mais pour nous aider peut-être à revenir à l'essentiel. Étends ta main, Esprit de Dieu, tu as conduit Pierre, tu as inspiré Paul, tu as inspiré Jacques, nos frères qui nous attendent dans la gloire. Pourquoi ne le ferais-tu pas pour nous? Ne sommes-nous pas les disciples de notre Maître? Nous ne sommes pas plus grands que lui, mais nous aspirons à être pleinement comme lui. À toi la gloire. Chantons ensemble, peut-être en nous levant, me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, je m'abandonne. Pourrions-nous nous donner les mains les uns aux autres? Me. Donnez la main à votre voisin, à votre voisine. Prêt à tout, c'est. Cela tient compte de ce que nous avons vu. Me voici. Je m'abandonne à toi. Me voici prêt à te servir. Je t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Règne en moi, règne.
en moi. Roi puissant, règne en moi, règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais, règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi.
Pendant que mon frère William continue, pourrions-nous prier maintenant et dire: Seigneur, nous voulons te proclamer chef de l'Église de France. Tu es le chef de l'Église de France, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique et d'Europe. Tu es le chef de l'Église dans le monde. Tu n'as pas dit que tu reviendras enlever tes églises, mais tu reviendras enlever ton Église. Tu n'as pas dit que tu viendras enlever tes épouses, mais ton épouse. Tu es le seul qui puisse coordonner toutes choses pour que nous ne soyons qu'un seul corps, une seule épouse, que nous ne soyons qu'une seule église. Seigneur, moi je ne vois les choses qu'à partir de mon palier, mais je ne vois pas tout ce qu'il y a autour. Toi seul tu vois, c'est pourquoi toi seul tu peux diriger en conséquence du corps. Tu diriges en conséquence de la vision du corps. Tu diriges en conséquence de la vision de l'épouse, celle que tu vas chercher sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous proclamons Jésus roi des rois sur l'Église. Commence à proclamer Jésus roi sur ton Église, sur ton ministère, sur la direction, sur l'organisation, sur le planning, sur tout ce que tu fais, sur tous les projets que tu as. Que Jésus soit le roi. Et si jamais ce matin il venait te dire non, pas ce projet, alors dis-lui: Seigneur, j'arrêterai, j'arrêterai. Si jamais il te dit non, ne nomme pas cet homme, ne nomme pas cette femme, alors ne le fais pas, ne le fais pas. Écoute-le, écoute-le. Il y a là une parole prophétique pour plusieurs qui sont en train de nommer des responsables. Et à qui Dieu dit? Il y a une église ici de 90 membres qui veut nommer un responsable. Et le Seigneur te dit: ce n'est pas celui-là. Tu es en train de choisir Eliab. Tu es en train de choisir Eliab. Tu t'es laissé impressionner par son discours et son apparence. Mais moi j'ai un David derrière un troupeau. Je vais te l'emmener si tu sais renoncer là. Dans ton cœur tu dis: mais j'ai peur, si je fais ça il va me diviser l'église. Si tu le fais pas, il te divisera quand même l'église. Alors ose croire maintenant et reçois cette parole de la part de Dieu. Il y a là l'onction de Dieu. Ose croire. Ne prends pas Eliab. De grâce pour toi et pour les brebis, il y a un David qui se lève. Tu ne seras pas pour lui un Saül, tu seras pour lui un père. Commencez à dire: Seigneur, tu es le chef de mon église, tu es le chef de mon ministère. Prions, prions, prions. Oh, pardonne-nous nos offenses, Père. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, toutes mes décisions prises par la chair, prises par la crainte. J'aimerais vous dire, s'il y a un pécheur qui doit se repentir au milieu de vous, c'est bien moi ce matin. S'il y en a un qui a fait des erreurs dans la direction, c'est bien moi ce matin. Je bénis Dieu pour mon père, je bénis Dieu pour tout ce qu'il m'a aidé. Mais combien de fois n'ai-je pas été tenté de prendre des décisions, motivé parfois par la crainte, parfois par l'ambition. Oui, je vous confesse que l'ambition peut nous emmener à parfois vouloir prendre des décisions. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Ce matin, c'est dans l'humilité que je veux m'approcher avec ton peuple ici présent. Pardonne-nous toute ambition personnelle. Pardonne-nous la volonté d'une croissance qui n'a pas de souci le salut des âmes, mais qui n'a qu'un souci, c'est le nombre dans nos églises. Pardonne-nous parce que cette motivation est fausse. Elle nous pousse à l'hypocrisie. Ramène-nous à la réalité, à voir le fardeau des perdus, un vrai fardeau, un fardeau qui coule de la croix, un fardeau que nous avons parce que nous voulons voir les hommes et les femmes être sauvés. Seigneur, non pas une croissance pour avoir du nombre et du chiffre. Nous savons que David a été sanctionné à cause du chiffre. Seigneur, ne nous sanctionne pas à cause du chiffre, mais aide-nous à revenir à l'essence même de ce qui doit nous pousser à chercher les perdus. C'est, eh bien, l'œuvre de la croix. Tu es mort pour eux, tu les as aimés. Ils ont le droit d'entendre le message de l'Évangile. Ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et si les églises croissent parce que nous avons le fardeau des âmes, alors je te loue, oh Dieu. Je te loue, oh Dieu. Je te loue, oh Dieu.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.